Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » D'eau et d'esprit. L'eau, c'est tout ce qui nous revient. C'est nos affaires. Cette nouvelle naissance, c'est aussi notre affaire. D'esprit, ça c'est clair. D'eau et d'esprit. Et on va toujours avoir un terme que les chrétiens vont beaucoup utiliser, qui est celui du tissage, celui de la trame et de la chaîne. Il y a une aventure humano-divine qui se fait. C'est ton affaire et c'est la mienne. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. On va s'arrêter là parce que je vois que le temps... Déjà, j'ai pas repéré. On va prendre les paroles de... J'ai entendu le clic.
De la
ouais. Okay. Tout le monde y est. Or, voici que à ce grand événement cosmique de la réflexion, et donc Teilhard de Chardin se situe, il essaye de regarder sur 12 milliards d'années, sur... lui, en paléontologue, anthropologue, là, il regarde un peu ce qui se passe. Et il dit, ça c'est clair qu'il s'est passé quelque chose d'étonnant, de bizarre, d'inattendu, qui va, quand on regarde l'évolution, il y a toutes sortes de pas inattendus, qui est plus d'informations, plus d'organisation à la fin qu'au début, c'est quand même étonnant. Parce que si vous laissez les choses se faire, on a construit la maison, au bout de 10 ans la maison, il faut déjà s'en réoccuper. Si on laisse les choses comme ça, tout a tendance à devenir un tas de sable. Et là, il s'aperçoit qu'en étudiant l'histoire de l'univers, du monde, de l'évolution biologique, etc., il y a des plus qui avancent. Et il dit, c'est des pas, des espèces de pas. Et il dit, il y a un pas de la réflexion. Les hommes... L'humanité, il y avait les animaux, etc. Il y a un pas de réflexion. On se met à réfléchir. Et il dit, oh voici, qu'à ce grand événement cosmique de la réflexion, un complément essentiel se découvre à qui sait voir sous forme de ce qu'on pourrait appeler le pas de l'amorisation. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de quelque chose qui apparaît avec l'aventure et ce que Jésus apporte, c'est que maintenant il y a un pas qui est celui, non plus du chacun pour soi, non plus de l'égoïsme de l'enfance, mais d'entrer dans sa vie d'adulte, qui est le pas de l'amorisation. Un amour. Vivre pour l'autre. Une vue plus réaliste et plus chrétienne nous montre la terre marchant vers un état où l'homme, ayant pris entière possession de son domaine d'action, de sa force, de sa maturité, de son unité, constituera une créature enfin adulte. À cet apogée de sa responsabilité et de sa liberté, portant entre ses mains tout son avenir et tout son passé, il choisira entre l'autonomie orgueilleuse et l'amoureuse excentration. C'est-à-dire, vous le voyez bien, d'un seul coup, est-ce que je vais m'occuper de moi-même, mon autonomie orgueilleuse? Bien sûr qu'il y a une autonomie, puisque Dieu nous donne à nous-mêmes. Mais justement, c'est ça l'aventure. Dieu nous donne à nous-mêmes. Pourquoi en faire? Pour nous donner. Et alors, est-ce qu'on va choisir de prendre ce qui nous est donné pour nous-mêmes, ou bien est-ce qu'on va en faire une amoureuse excentration, une ouverture, un don de l'autre, et alors ça se multiplie. C'est la multiplication des pains. Maintenant qu'il a trouvé un sens à la vie, qu'y a-t-il de changé en l'homme qui a ouvert sa vie intérieure aux préoccupations, à la conscience du cosmos? Qu'est-ce qui arrive à l'homme dès qu'il a trouvé le sens de sa vie, c'est-à-dire la flèche, d'où je viens, où je vais.
C'est ça. D'un seul coup, on peut se mettre à travailler et non pas du travail brownien. Je bricole, je fais des trucs, etc. Mais j'ai trouvé le sens. Maintenant, je peux bâtir, construire, faire avancer les affaires. Qu'y a-t-il de changé en l'homme qui a ouvert sa vie intérieure aux préoccupations, à la conscience du cosmos? Le niveau d'égoïsme a baissé en lui. Il s'aime, oui, autrement et mieux. Une légion d'autres autour de lui ont leur droit à réussir et à être heureux. Il discerne l'élaboration d'une grande œuvre qui requiert toute sa bonne volonté et le passionne. La paresse et la nonchalance, dès lors, l'ont abandonné pour faire place au goût ardent de la recherche et à l'inquiétude saine et âpre du progrès. Faire avancer là où il y a besoin de faire avancer quelque chose, parce qu'il y en a du boulot. Pas de temps à perdre, ni d'occasion à manquer, si infime qu'elle soit, une part du succès final de la vie dépend de ma diligence à scruter le monde et à le perfectionner en moi. La seule réponse que j'ambitionne désormais à ma peine, c'est de penser qu'elle est utilisée pour le progrès essentiel et durable de l'univers. On lui interdit d'enseigner, on lui interdit de publier, on l'exile, on veut lui donner la chaire de paléontologie du Collège de France, et tout le monde dit non, hein, pas les autorités laïques, on dit non, il est exilé en Chine, on ne peut pas l'empêcher de vivre. Mais, et alors, voilà ce qu'il nous dit. Je vais utiliser tout ça pour le progrès essentiel et durable de l'univers. Je vais travailler, poursuivre là où je suis, écrire, confier mes documents à quelqu'un, et puis on va voir. Aimer Dieu, et non seulement de tout son cœur et de toute son âme, mais de tout l'univers en évolution. On passe au texte de la Bertonnière, oui, je suis désolé. La seule voie qui nous reste pour expliquer est la dépendance et l'exigence d'autonomie qui nous caractérise. Hein, on a toujours cette idée de la Bertonnière, hein, dans le sens de la dépendance, on reçoit tout, et aussi notre autonomie, on a tout à construire. Bien sûr, bien sûr. D'aventure, qu'ils sont en train d'apprendre aussi leur dépendance. Et eux, leur dépendance à eux, elle est d'abord des dépendances à leurs parents. Et comment apprendre leur autonomie? Et bien souvent, parfois, alors moi, je revois qu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80, des gens ne sont pas encore autonomes parce qu'ils ne l'ont jamais appris. Le travail essentiel de parents, c'est d'apprendre l'autonomie, la liberté, le choix à leurs enfants. Et ça, ce n'est pas en leur interdisant des choses. Bien sûr qu'il faut les protéger, bien sûr qu'il faut... Mais c'est en leur apprenant à faire leurs choix, qui ne sont bien sûr pas les nôtres. Mais il faut apprendre. Hein. Apprendre à choisir un vêtement. Si toujours maman a toujours choisi les vêtements à la place... Comment est-ce qu'on va pouvoir savoir comment se faire belle pour, si, voilà. La seule voie qui nous reste pour expliquer est la dépendance et l'exigence d'autonomie qui nous caractérise, c'est de concevoir un Dieu de bonté, de générosité, qui, parce qu'il est bon et généreux, parce qu'il est caritas, comme dit Saint Jean, nous veut pour nous-mêmes, qui nous prend pour fin, et qui pour cela nous prête son être, ou plutôt nous donne son être, afin que nous soyons vraiment comme il est, et que nous puissions dire avec lui et par lui, « Ego sum, je suis ». et qu'en usant de l'être qu'il nous donne, nous en ayons la responsabilité, il nous donne son être pour que nous participions à sa vie d'une façon qui nous soit personnelle. L'exigence de l'autonomie n'est rien moins que l'amour de Dieu se mettant à notre disposition, nous constituant nous-mêmes pour qu'en lui et par lui, nous devenions par acceptation fils de Dieu. Parce que la filiation n'a son plein effet que lorsqu'elle est reconnue, acceptée, ratifiée, comme nous le sommes par origine. Si nous n'existons pas en nous-mêmes et pour nous-mêmes, on ne peut parler de personnalité. Il faut au principe, à l'origine même de notre être, une liberté, une bonté qui nous aime. Pas d'autonomie sans qu'il y ait une bonté semblable, une bonté qui nous veut, pouvant ne pas nous vouloir. Cela suppose que nous avons à passer par un renoncement vrai et sincère. Si par ce renoncement nous perdons notre individualité égoïste, c'est pour nous retrouver au-dessus dans une personnalité généreuse qui veut les autres comme Dieu les veut. Dieu en est le principe et la fin, venu de lui uniquement par lui, sans que nous y soyons pour rien, nous devons aller à lui librement. Et dans cette parole de la Bertenière, ça va très très loin. La Bertenière dit aussi, puisque nous sommes des êtres qui pouvons dire « je suis », du neuf apparaît sur la terre, de la nouveauté apparaît, l'œuvre créatrice, les aventures, parce que c'est du divin qui apparaît. Entremêlé du sous-humain, parce que quand on n'est pas divin, on prend pas le voie de... Voilà. Alors, les lointains d'autrefois deviennent des voisinages. Dieu n'est pas loin de nous. Nous n'en sommes loin que par le cœur, et que le cœur se retourne, et Dieu sera là, vu, senti, goûté. Quand Jésus-Christ nous dit « Soyez parfaits », il ne s'agit évidemment pas d'être parfait au degré où le Père Céleste est parfait. Infinité au-delà par laquelle il existe en lui-même et par lui-même, indépendance fondamentale, métaphysique, se suffisant pour être et pour vivre. Non, bien sûr, il ne faut pas renverser les rôles quand même. Dieu, par sa bonté, générosité, nous faisant exister en nous-mêmes, nous nous appartenons. Et ce qu'il faut apprendre aux enfants, c'est qu'ils s'appartiennent. Voilà pourquoi on a posé un verrou, et qu'ils ont leur vie, et que nous, on est là pour les aider à faire leur vie. Ils n'ont pas à devenir des clones de Jackie et de Joël. Et ils ont, si on peut, leur donner l'essentiel pour qu'ils soient eux-mêmes. Hein. Dieu, par sa bonté et générosité, nous faisant exister en nous-mêmes, nous nous appartenons. En conséquence, par une charité semblable à la sienne, nous pouvons le vouloir comme il nous veut et vouloir avec lui les autres comme il les veut. C'est ça le retournement, c'est ça la conversion. C'est pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Être parfait, c'est donc aimer Dieu librement et avec lui et en lui et pour lui, aimer librement les autres. Ce n'est pas en ne pensant plus rien, en ne voulant plus rien, en se vidant de toute détermination et par un anéantissement total de son être propre qu'on le rejoint. Parce qu'ici, alors on voit aussi tout ce qui se passe de ceux qui essayent, qui cherchent à trouver Dieu. Et dit, ce n'est pas en ne pensant plus rien. Ce n'est pas par le vide complet. ce n'est pas en ne voulant plus rien. Hein. Ce n'est pas en se vidant de toute détermination par un anéantissement total de son être. Les gens qui disent « Oh, pour aimer Dieu, il faut être, on est que des crottes, on n'est rien, le renoncement à soi-même, etc. » Mais arrêtez! C'est moins ça a circulé en d'autres fois dans l'Église, des choses comme ça, mais le renoncement à soi-même, je ne suis rien, non, c'est plus ça maintenant. Hein. Heureusement, M. Freud est passé par là, pour dire que ces bazars-là, c'est des esprits mortifères. Hein. C'est de l'esprit mortifère. Et on a des choses comme ça dans certains de nos saints. Hein. Le pauvre curé d'Ars qui bouffe des patates pourries. C'est certainement pas de Dieu, ça. Et Jésus aurait été tellement content qu'il mange un gratin dauphinois. Et pourquoi, mais ne serait-ce que par charité pour ces paroissiennes qui auraient eu un bonheur de lui faire ça, et lui, et d'être en bonne santé, et de ne pas mourir bêtement si tôt. Des conneries, c'est comme ça. Et voilà, la Bertagnère dit, non, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. Et des saints on se sont trompés parfois. Il y a un tel élan, ils se disent, mais il faut... Alors c'est l'anéantissement de soi pour grandir Dieu, vous pensez. Comme si une mère se réjouissait de voir écrabouiller son enfant. Arrêtez. Au contraire, qu'il devient, grandit, devient belle, devient généreux, voilà. Alors, ce n'est pas en s'anéantissant tout ça qu'on apporte quelque chose et qu'on trouve Dieu. Au contraire, c'est en pensant. Hein, pour la Bertonnière, quand il dit ça, c'est son bonheur et c'est sa vie. Il a consacré sa vie à ça, chercher, penser. Il dit penser, écrire, aider des gens à comprendre le sens de leur vie. Hein, c'est au contraire en pensant et en voulant ce qui ne passe pas. Ah. C'est qui ne passe pas, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est d'aller pas seulement pour ici-bas ou ici-haut, mais c'est pour une éternité, de vouloir parce qu'on a compris ce qui ne passe pas au-dessus de ce qui passe. Et c'est en se constituant solidement dans l'être. Bien sûr, aujourd'hui, mais je crois, moi je n'imagine pas, comme ça, d'être chrétien sans travailler tous ces outils que Freud nous a donnés avec tous les autres sur la psychologie, parce que c'est fondamental. Il y a des réactions que nous avons à des événements, mais qu'on est capable de comprendre simplement et d'avoir une réaction qui va être la réaction juste. Ça me semble la moindre des choses. On n'est pas obligé. Mais enfin, il y a des gens qui, aujourd'hui, n'acceptent pas de monter dans une voiture. Qui n'aurait pas le gaz à la maison, pas l'électricité. Ça peut être bien, oui. Ça peut l'être, hein, ça peut l'être. Mais c'est de réfléchir à ces choses-là. Si ce n'est qu'en se donnant que l'âme s'unit à lui, ce n'est que parce que lui-même ne s'unit à l'âme qu'en se donnant. Si l'âme ne le connaît, alors là aussi on parle d'âme, hein, parce que ça c'est le langage de l'époque, hein. Aujourd'hui on ne parle pas beaucoup de l'âme, hein, c'est bon, le mot qu'utilisent les psychologues, c'est ce même mot, hein, la psyché, hein, ouais, l'âme, hein, voilà, l'âme, l'individualité, la personne, on va dire la personne, hein, aujourd'hui, la personne ne se connaît. Si l'âme ne le connaît vraiment que par générosité, la personne, on ne connaît Dieu que par la générosité. C'est parce qu'il est générosité en lui-même. C'est le Dieu généreux de l'âme qui, par suite de sa générosité, a le devoir d'être généreuse. Un Dieu qui nous fait exister et vivre, non par action nécessaire de nature, comme le Dieu d'Aristote. Le Dieu d'Aristote, il fabrique les choses parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ni non plus par besoin de manifester sa toute-puissance, d'en tirer gloire, d'avoir des serviteurs, une cour, comme Louis XIV. Non, comme disent certains théologiens. Mais s'il crée les êtres par amour pour nous. Ce que saint Jean de la Croix exprime en disant « Ce qui lui plaît uniquement, c'est de voir grandir nos âmes, nos êtres, nos personnes. Hein. Et l'âme, et l'être, la personne, l'essentiel de que nous sommes, ainsi voulue, ainsi aimée en elle-même et pour elle-même, ne grandit qu'en voulant et qu'en aimant à son tour. La voie de l'amour est la seule voie de la croissance. Dieu en lui-même et pour lui-même. Mais dans la mesure où elle se transforme par cet amour, elle se trouve en état d'égalité avec Dieu. Dieu, mon frère. Voilà comment, à la connaissance que l'être réalise du point de vue de son égocentrisme, Saint Jean de la Croix substitue la connaissance qu'il appelle connaissance par amour, par charité, et que l'être réalise en cessant de se faire centre pour se placer généreusement au point de vue de Dieu. Chacun, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, dès lors qu'il est généreux, d'une générosité de fond et non de surface et d'apparence, est dans la voie qui mène à Dieu. Ou plutôt, il a déjà trouvé Dieu. Pour autant, même s'il ne le sait pas encore, s'il ne sait pas encore le nommer, car ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père Céleste. De même que Dieu aime, et agit pour nous faire exister en lui, il faut que nous aimions et que nous agissions pour le faire exister en nous, dans notre vie voulue et réfléchie. Telle est l'œuvre qu'en ce monde nous avons à accomplir. La vie, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as engendré. Ici, tout se ramène donc à l'action, et par l'action, à l'amour. L'amour est le principe, le moyen et la fin. C'est la raison dernière qui rend compte de tout, qui éclaircit tout, qui explique tout. Et l'amour étant libre par essence, la liberté règne au sommet comme au fond des choses. Tandis qu'ontologiquement, hein, ontologiquement c'est au niveau de notre être, fondamentalement, hein, c'est ce que ça veut dire. Tandis que ontologiquement, nous sommes et nous vivons par Dieu et par les autres. Intellectuellement et moralement, c'est donc par nous que Dieu et les autres existent et vivent en nous. Et ce n'est qu'en les faisant exister et vivre en nous que nous reconnaissons qu'ils existent et qu'ils vivent en eux-mêmes. Alors on comprend mieux quand Jésus dit « Mais quand vous dites « raca »,« raca », quand vous dites « bof, paf, c'est là, paf, pas grand monde », qu'est-ce que vous faites ? Il dit « Mais là, c'est pire qu'un meurtre. Pourquoi ? Mais parce que c'est simplement que ne vit pas en vous l'amour du Père. Vous n'êtes pas dans qui vous êtes. L'exclusion. C'est dans l'acte créateur même que Dieu a mis sa charité. Et il a mis sa charité dans l'acte créateur même, précisément, en faisant que le Verbe éternel de sa divinité, c'est-à-dire à l'intérieur, cette parole, Dieu n'est pas seul. S'il est amour, il ne peut pas être seul. Ça, c'était la grande révolution chrétienne, hein, la découverte progressive que si Dieu est amour, il ne peut pas être le solitaire. Il est communion du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors, on va mettre ces trois termes-là. Hein, bon, mais il n'est qu'une communion d'amour qui se donne l'un à l'autre. Il a mis sa charité dans l'acte créateur même, précisément en faisant que le Verbe éternel de sa divinité, le Verbe, la parole, qui s'est faite chair, qu'on retrouve en Jésus, se fasse notre frère, et que, se faisant notre frère, et nous, devenant ses frères, nous puissions devenir avec lui fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu, non pas après coup, mais nous sommes les fils de Dieu depuis, de par, par origine, par volonté initiale de Dieu. L'incarnation n'est pas un accident. Que le Verbe de Dieu se fasse chair, que Jésus se fasse homme, que Jésus ait marché, et que les disciples petit à petit vont reconnaître et de dire « oui, nous on a rencontré l'homme ». Mais cet homme-là, c'est le Père, c'est la divinité, et qui est venu parmi nous, qui s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Dieu est venu parmi nous, dira Saint Jean. L'incarnation n'est donc pas un accident. Le Christ est pour nous beaucoup plus qu'un exemple. Il crée en nous l'obligation d'être généreux. Le Christ est au centre de l'humanité. Autour de lui gravite toute notre existence spirituelle et morale. Le Christ est donc présent à la conscience de tout homme. Tout ce qui s'agite en nous d'aspiration à devenir plus que nous sommes, c'est par sa présence en nous, par son action en nous. Le Christ est présence de Dieu pour nous, vivant humainement sa vie divine pour que nous vivions divinement notre vie humaine. Ce sera toujours le grand échange dont les pères de l'Église vont parler. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Qu'on s'y prenne, du reste, comme on voudra. On ne fera jamais que la vie humaine ne soit pas un danger à courir, que vivre en homme ne soit pas vivre à ses risques et périls. La foi au christianisme n'est vraiment vivante et agissante que chez ceux qui, d'une manière ou d'une autre, mais toujours à la sueur de leur front, ont réalisé une conversion, un retournement personnel et coopérer par leurs efforts à la conquête de la vérité chrétienne. Et celui qui nous dit ça, lui aussi, va jusqu'au bout de mourir pour cela. Il va être mis à l'index, et il va poursuivre son chemin, son travail, sans jamais dire un mot contre ceux qui le martyrisent. Le questionnement, jour 4, la réponse de l'amour à l'amour de son Dieu. La réponse de l'homme à l'amour de son Dieu, le retournement. Que faire devant le spectacle d'un tel amour pour nous? C'est ce que les apôtres Jean et Paul vont dire de ce qu'est la croix. Ils vont parler du spectacle. Dieu nous donne son être pour nous faire exister. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et cependant, nous savons, puisque Dieu fait les créatures se faire, que nous avons notre part à faire. Et quelle est notre part, si ce n'est de répondre avec générosité à la bonté de Dieu? La conversion, ce n'est pas de devenir religieux, c'est un retournement de cœur. C'est de passer d'une centration sur soi-même au don de sa vie pour les autres et pour celui qui nous aime. Cela signifie quoi pour moi de répondre à l'amour de Dieu par la générosité? La porte, la bonté. Dieu, par sa bonté, générosité, nous faisant exister en nous-mêmes, nous nous appartenons. En conséquence, par une charité semblable à la sienne, nous pouvons le vouloir comme il nous veut et vouloir avec lui les autres comme il les veut, nous dit la Bertonnière. Voilà. la réussite de ma vie, le déploiement du germe de bonté déposé en moi est laissé à mon bon vouloir. Je regarde comment je peux faire vivre mon Dieu et les autres en moi.